penche la guitare, penche la guitare, penche la guitare.
1, 2,
penche la guitare.
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour et bienvenue. Ce programme radio Les empreintes musicales sera dédié à la présentation d'acteurs, de créateurs du domaine de la musique en Bretagne. Nous abordons ensemble la vie, ses étapes de construction, les missions qui ont été confiées à mon invité, ses créations, réussites et difficultés qu'il ou elle aura rencontrées. Ce portrait audio se déroule en 4 parties, 4 épisodes, présentant chacun et de façon chronologique le parcours, l'histoire, les réalisations de notre invité. Aujourd'hui, notre invité porte fièrement le nom de son patronyme familial, une icône sacrée de la chanson française. Accompagné par Colette Olivier Chanterelle à l'écriture, notre invité vient de nous présenter son ouvrage, un récit autobiographique sorti aux éditions Plomb, il y a quelques mois, « Fille de Métèque ». C'est en septembre dernier, alors que je porte une oreille distraite à une émission littéraire du samedi après-midi sur une grande radio nationale, que j'apprends le lien de mon invité du jour à la Bretagne. Elle est la fille d'un célèbre chanteur français aux origines méditerranéennes et elle vient alors de sortir son ouvrage autobiographique. Dans cet entretien avec Emmanuel Kérade, elle revient à ses origines bretonnes. Ce témoignage m'interpelle vraiment sur le coup. Il a un effet déclencheur pour moi. J'arrête aussitôt toutes mes activités de rangement pour me concentrer sur ce qui se dit. Mon invité du jour et ce témoignage écouté avec attention aura sans doute été le déclic pour ce projet d'émission de radio et de podcast biographique audio. L'idée faisait son chemin depuis déjà plusieurs mois. Comment relier mes centres d'intérêt principaux dans un nouveau projet créatif et innovant ? Dans cette nouvelle émission, Les empreintes musicales, je considère que la personne que je reçois aujourd'hui représente bien les 4 aspects du contenu que je souhaitais rassembler. Un témoignage enregistré en audio pour un projet d'émission de radio, soutenir et promouvoir les actions des créatifs résidant en Bretagne, découvrir les aspects plus intimes d'une personnalité liée au monde de la musique, et prendre le temps de la bienveillance, de la douceur de vivre, de la découverte, du respect et de l'écoute.
Les empreintes musicales.
Bonjour Pia.
Bonjour Franck.
Il est temps de nous présenter alors vos parents. Qui sont-ils ?
Mes parents, alors je vais commencer par ma mère, et elle s'appelle Yannick Varek, de son nom de plume, Annick Kozanek, de son nom d'origine. Elle est bretonne de Roscoff, elle est née dans la région parisienne, et elle a été l'égérie des peintres de Montparnasse. C'était une petite femme d'1m58 à peu près, et très originale, très, très intelligente, très créative. Elle faisait beaucoup de choses de ses mains, et aussi elle écrivait des poèmes.
Voilà pour la maman. Voilà. Le papa ?
Ah ben, le papa est un petit peu plus jeune, il est arrivé en France à 17 ans, et ma mère, il a croisé ma mère, rencontré ma mère, qui en avait 22, et donc elle lui a présenté ses amis justement de Montparnasse, et aussi Georges Brassens, qui a encouragé mon père à écrire des chansons et à les chanter.
Et donc votre papa, c'est ?
C'est Georges Moustaki, né à Alexandrie de parents grecs. Mais mon père n'était pas connu du tout, il avait 17 ans, il était encore un peu boutonneux. Et même les amis de ma mère disaient « Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ton nouveau béguin ?» Et ma mère était sûre d'elle parce qu'elle l'a épousée et elle a fait un enfant qui est moi.
Alors, l'une des raisons principales donc, de votre présence à notre micro est donc l'origine bretonne de votre maman, justement, que vous revendiquez, vous, hein, dans votre autobiographie, là, fille de Métec. Yannick Varek, donc son pseudo, c'est son pseudo d'artiste. Son nom sur l'état civil, c'est Annick Kozanek. Qu'avez-vous donc appris de sa jeunesse et de son parcours, alors artistique?
Oui, veux juste dire une petite chose, c'est que Brigitte Fontaine, qui est une grande amie à mon père, et qui a bien connu ma mère aussi, m'a souvent dit « mais tu es beaucoup plus bretonne que grecque ». Alors qu'elle est de Morlaix, Brigitte Fontaine. Et donc, avec ma mère qui était de Roscoff, elles étaient un peu sœurs de rencontre. Et voilà, donc je voulais dire que je me sens très bretonne quand même. Et je vis la moitié du temps à Saint-Malo. J'ai quitté Paris pendant 20 ans. Et maintenant, je m'occupe des affaires de mon père à Paris. Donc, je navigue entre les deux, mais j'ai vraiment choisi de partir vivre en Bretagne. Voilà, donc je voulais quand même dire le fait que c'est pas que je me revendique, c'est que je me sens vraiment bretonne. Et même physiquement, moi j'ai des cousins qui sont grecs, des deux parents donc, cousins germains, et on dirait pas qu'on est de la même famille, quoi. Moi j'ai vraiment pris du côté bretonne, peau claire, etc.
Et est-ce que votre maman, donc à cette époque-là, vous l'avez précisé, elle est née à Paris?
Elle est née à Levallois-Perret, exactement.
C'est, enfin, voilà, de la région parisienne. Mais elle, du coup, est-ce qu'elle revendiquait aussi ses origines bretonnes?
Oui, oh là là. Elle disait même « je suis breton », parce que bretonne, c'est les petites bonnes qu'on envoyait à Paris et qui se faisaient exploiter. Donc elle était très rebelle aussi à ce niveau-là. Elle était assez extraordinaire. Les gens qui croisaient ma mère, ils se rappelaient, quoi. C'était quelqu'un de d'étonnant, vraiment, et en plus, elle cultivait le mystère et puis elle la répartie, elle avait beaucoup de répartie.
Et donc, vous aviez donc un papa très célèbre aussi qui vous a légué son nom, hein, Pia Moustaki. Sa jeune histoire à lui concerne plus les pays orientaux. C'est une vie très cosmopolite, multiculturelle et artistique. Donc, alors lui, il y a eu plusieurs prénoms. On parle de Youssef, Giuseppe, Joseph, Jo diminutif.
Oui.
Pour finir avec le prénom Georges Moustaki.
En hommage à Brassens, oui.
Votre père, donc, lui, est né du côté d'Alexandrie, en Égypte. Hein.
Il est né à Alexandrie, oui.
Que savez-vous de ces jeunes années à lui,
il est
là-bas?
Son père avait une librairie qui s'appelait la Cité du Livre, à Alexandrie. Donc, il est vraiment né dans une librairie. Et il y avait beaucoup de francophones à Alexandrie. C'était très cosmopolite. On parlait anglais, on parlait français. Lui, il parlait italien avec ses parents à la maison. Dans la rue, on parlait arabe. Donc déjà, il avait 3-4 langues comme ça assez facilement. Il était très attiré par la France.
Mais les parents, Joseph et ses sœurs, parlaient français entre eux.
Voilà.
Ok.
Et l'aînée, enfin les deux sœurs sont venues en France très jeunes pour faire des études à la Sorbonne, l'une et l'autre. Marcel pour aller... donc l'une, c'était Elisabeth, l'aînée, et la seconde sœur était venue pour faire un stage dans une librairie, pour ensuite retourner aider son père à la librairie, mais sauf qu'elle a rencontré Jean-Pierre Ronet, qui donc écrivait des poèmes, était ami avec ma mère, donc ils se sont tous rencontrés, et ça a fait des familles... branché sur la poésie.
Et donc, alors, ça, c'est les sœurs, hein, de Georges Moustaki.
Oui.
Et lui, donc, est arrivé à peu près vers quel âge?
Il avait 17 ans.
Il a suivi ses sœurs, en fait. Il était aussi
amoureux
de la littérature.
C'était en 51, je crois bien, d'une façon précise. Oui, c'est ça. Et oui, bah, il a suivi ses sœurs. Et puis, il était déjà venu dans un camp de scouts quand il avait 13 ans, donc plus jeune. Et là, il s'était fait appeler Raymond Bergeret pour faire français. Il avait, je crois, très envie d'être français, en fait.
À 17 ans, il arrive pour s'installer, finalement.
Voilà. Là, il a voulu vraiment venir. Il n'avait pas encore passé la deuxième partie du bac, donc il est venu pour voir Paris, mais il pensait retourner pour sa deuxième partie du bac. Et finalement, il n'est jamais retourné parce qu'il est tombé amoureux de ma mère.
Et cette rencontre-là, justement, avec Yannick Varek?
Alors, ils se sont rencontrés justement à la librairie que tenait Jean-Pierre Ronet avec sa compagne Marcel, donc la sœur de mon père. Et donc, c'est comme ça qu'il est venu, parce que lui, il était quand même beaucoup plus jeune. Et à 17 ans, on est quand même... Mais les parents, Sarah et Nessim, les parents Moustaki étaient très permissifs et très...
Vos grands-parents?
Voilà, ouais. Mes grands-parents, les parents de mon père... Et avec notamment les sœurs, parce que c'était des femmes, elles les laissaient aller en France comme ça, à cette époque, c'était très, très ouvert d'esprit.
Mmh. Pia Moustaki, votre naissance à vous est intervenue donc très rapidement dans leur jeune histoire amoureuse, dans leur vie de jeune adulte. Était-il vraiment prêt à s'engager dans les missions éducatives de parents pour vous aider à vous structurer comme bébé ou comme enfant ?
Pas du tout prêt, non. Je crois qu'on n'est jamais prêt, en fait. On apprend sur le tas. Il n'y a pas d'école pour devenir parent. Et ils n'étaient pas prêts, mais ils ont improvisé. Et je crois qu'ils sont bien débrouillés parce que ce n'étaient pas des parents du tout classiques. Ils étaient vraiment hors normes. Mais voilà, ils ont fait, je crois, de leur mieux. Mais c'était des parents. Bon, après, à l'adolescence, j'étais un peu gênée qu'ils soient un peu si excentriques, si différents des autres parents. Quand j'étais toute petite, c'était des parents aimants, oui. C'était une enfance joyeuse.
À larguer les amarres, pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait...
Georges Moustaki, Ma liberté.
Finir une belle aventure.
Un premier événement extraordinaire dans votre vie, dont vous n'imaginez pas alors la portée historique pour vous, votre père et votre entourage, c'est la rencontre avec Édith Piaf. Vous avez 4 ans et demi.
Ouais.
Vous vous en souvenez de cette rencontre-là?
Je me souviens d'une visite chez Édith. Elle m'a acheté des petites robes. J'ai vu des photos de ces petites robes très mignonnes en velours bleu nuit avec un peu de dentelle au col. Enfin, vraiment des petites merveilles. Parce que mes parents à l'époque étaient plutôt fauchés et donc elle était très généreuse, mais elle était très généreuse en général, Edith. Et donc on était arrivés chez elle et puis elle était très attentive à l'enfant que j'étais. J'en étais étonnée parce que d'habitude les adultes ils s'occupaient, ils étaient un peu à leur hauteur et elle s'était vraiment penchée. Quand elle était petite, c'était moins difficile. Et puis elle m'a emmenée dans la cuisine voir sa gouvernante qui m'a préparé une mousse au chocolat dont je me rappelle encore. Et voilà, donc je ne l'ai pas vu longtemps, mais j'ai senti une vraie présence, une vraie bienveillance.
C'était en février 58 hein, que votre papa, donc jusqu'ici inconnu,
ouais,
a écrit cette chanson, hein, Milord, pour Édith Piaf. Est-ce que vous gardez aussi en mémoire le charisme que pouvait représenter Édith aussi, sa personnalité, quoi, assez forte, assez volubile, assez joyeuse?
Après, j'ai lu, moi, des bios, je me suis intéressée à Édith Piaf, comme beaucoup de gens s'intéressent à Édith Piaf. Donc, j'ai même demandé à Loulou Barrier, qui était son impresario et qui est devenu ensuite l'impresario de mon père, qu'est-ce que tu me conseilles comme bio pour être vraiment fidèle à sa vie, etc. Il m'a dit, oh, ben, celle-là, il m'a conseillé dans mes lectures pour que j'apprenne à connaître cette femme qui m'avait offert ma première guitare, quand même, qui était une vraie guitare. De petit format, mais
conservez toujours.
Que j'ai toujours, bien sûr.
Pierre Moustaki, alors voilà, on est dans ces années 58. Votre père a eu une aventure amoureuse avec la chanteuse. Votre maman l'a appris et sa réaction a été d'une dignité incroyable. Alors, il paraît que dans ces années-là, on était plutôt, comme vous l'avez un peu précisé tout à l'heure, plutôt ouvert d'esprit. Elles se sont même rencontrées, votre maman, puis... Édith Piaf, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce contexte-là ?
Oui, et c'est vrai que dans ces années-là, c'était la mode, on va dire, ou la tendance du moment de ne pas s'appartenir. C'était les existentialistes, c'était les intellectuels, et puis ils voulaient pas être un couple comme tout le monde, où on se fait des scènes de jalousie s'il y a des choses qui se passent, etc. Elle voulait vraiment avoir une ouverture d'esprit plus vaste. Et donc, quand elle a appris la liaison de mon père, elle a accepté, elle a dit, bon, bah, écoute, si t'as envie de vivre... Elle a accepté cet état de fait. Et donc, Édith était très étonnée de ça. Et elle a dit à mon père, mais c'est incroyable, ta femme, comment elle est... C'est la classe, quoi, elle accepte notre histoire, alors que n'importe quelle autre femme aurait aurait crisé, fait des crises de jalousie, etc. Et donc elle a dit, j'aimerais bien rencontrer cette femme. Et mon père est venu à la maison, puis il a dit à ma mère, Edith, Piaf aimerait bien te rencontrer, parce qu'elle est très étonnée de la façon dont tu réagis par rapport à notre aventure. Et ma mère a réfléchi un petit peu, et avant de répondre, je veux bien la rencontrer. Et mon père a dit, d'accord, on y va. Et ma mère a dit, non, j'y vais. Et là, elles se sont vues toutes les deux. Et à mon avis, ça a été assez marrant.
C'est ça, vous l'écrivez un peu dans votre biographie, donc fille de Métèque.
Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da.
Musicale.
L'écriture de ce texte Milord, que votre papa Georges Boustaki a écrit pour Edith Piaf, et les droits d'auteur qu'il aura générés, qui permettra à votre père d'investir dans un grand appartement du boulevard Haussmann, c'est un peu le lancement de la carrière de votre papa ?
Oui, il a été reconnu, oui, effectivement, comme auteur, enfin, parolier, parce qu'il a écrit le texte de Milord, la musique de Marguerite Monod. Et donc, il a été reconnu en tant que parolier. C'était une grande référence.
Et alors, pour vous, vous avez 4 ans, vous êtes à l'école primaire, hein, c'est déjà ça à l'époque.
Ouais, je crois, oui.
comment se passe votre jeune enfance, justement, en classe
Moi, j'aimais bien cet appartement, parce que je pouvais faire du vélo dans le couloir. Ah. Ça, c'était vachement bien. Et puis, après, mes parents n'étaient pas souvent là. Je commençais à avoir une nounou, parce qu'avant... J'avais pas de nounou, il me laissait seul parfois quand il sortait le soir, c'était moins drôle. Mais là, il y avait quand même une nounou et un ami aussi de la famille, Roger Lombroso, qui était venu en France, qui était d'Égypte aussi, et un ami d'enfance de mon père, qui est venu habiter dans cet appartement, parce qu'il y avait, je sais pas, 4 ou 5 chambres, donc il avait sa chambre aussi. Et là, j'étais contente parce qu'il a fait un peu office de parrain, il me gardait le soir. J'étais moi seule dans cet appartement et j'avais le droit de faire du vélo.
Parce que, en fait, voilà, c'est... dans ces années-là, vos parents sortaient beaucoup, c'était la vie...
C'était la vie nocturne des poètes et artistes de Montparnasse. Je ne me souviens plus trop quand j'étais boulevard Haussmann. Là, je sais que j'ai eu l'âge de raison, donc je me rappelle de ça. Donc j'ai eu 7 ans là-bas, et ensuite, mes parents sont séparés, ma mère a acheté un petit appartement dans le quartier latin. Et je me rappelle de l'école dans le quartier latin, rue Victor Cousin, qui coupe la rue Soufflot, tout près du Luxembourg, du jardin du Luxembourg. Et par contre, l'école vers le boulevard Haussmann, je ne me rappelle pas du tout.
Mais alors,
j'étais trop petite. Ça ne m'a pas marqué.
Et cette enfance-là, en tant que fille, on va dire, d'excentrique, d'originaux, de créatifs, d'artistes, comment vous la vivez ? Comment les autres enfants la vivaient ? Comment vous
C'était
étiez un peu
intégrée ? C'était un peu compliqué pour moi, parce que j'avais un prénom pas comme les autres. J'avais un nom aussi difficile à prononcer ou à écrire. J'avais un papa qui faisait pas un métier. Je lui disais d'ailleurs, qu'est-ce que je mets sur mon bulletin ? Ton métier, c'est quoi ? Il me disait ACI. Je disais, c'est quoi ? Auteur, compositeur, interprète. Alors, je disais, c'est trop long. On peut mettre chanteur, mais il chantait pas encore vraiment. Alors, je préférais mettre chanteur, c'était plus simple. Mais c'était pas forcément plus prestigieux, mais en tout cas plus simple. Et ma mère, elle avait pas vraiment de métier non plus. Elle était poète, elle faisait aussi des. Elle était très bricoleuse, donc elle venait en salopette pleine de peinture parce qu'elle faisait une chambre. Enfin. Et une fois, la directrice lui a dit « Mais madame, vous n'êtes pas scolaire. » Alors elle a pouffé de rire, elle a dit « Écoutez, c'est pas de mon âge d'être scolaire, moi j'ai cherché ma môme et puis j'en ai rien à foutre de vos conneries. » Et elle était comme ça, elle était cash. Hein, elle était,
ouais. Ouais, c'était, voilà, on sent que voilà, c'était aussi, elles étaient dans un milieu original, quoi.
Ah oui, tout à fait, atypique.
Excentrique, bah, atypique.
Oui. Moi, je voulais être comme tout le monde. Donc moi, mon deuxième prénom, c'est Catherine. J'aurais rêvé de m'appeler Catherine, d'avoir des frères et sœurs comme tout le monde, ce qui n'était pas le cas, d'avoir un papa comme tout le monde, ce qui n'était pas le cas, et une maman aussi. Donc j'aimais beaucoup aller chez mes cousins, avec ma tante Jannick, que j'adore, que j'ai perdue récemment. Et qui, là, c'était une vraie famille normale où on mangeait à des repas normaux et à des heures normales. Et je rêvais de choses normales.
Être standard, en fait. Un
ben
peu standardisé.
Oui, d'être comme les autres. Mais d'accord. Tous les enfants aiment être comme les autres. Hmm. Ils n'aiment pas être atypiques. Ils sont cruels entre eux à la récré. Mais c'est quoi ce nom, Pia? Où tu l'as trouvé, ton prénom? Enfin, ils sont cruels.
La séparation de vos parents intervient à ces moments-là, hein, lorsque
oui,
vous
c'est
êtes...
à peu près ça. Oui, c'est quand elle a déménagé. Ben, ils ont continué à vivre ensemble, mais chambres séparées, ben, pendant la liaison Piaf, etc. Mon père est allé avec Piaf aussi à New York. Ça s'est commencé à se défaire doucement. Donc, ils ont décidé de... Et là, mon père a acheté un petit appartement dans l'île Saint-Louis, et qui lui ressemblait beaucoup plus que le boulevard Haussmann.
Donc, et là, la séparation est effective.
Elle a été effective à ce moment-là. Et ma mère, rue des Fossés-Saint-Jacques, à Paris, dans le quartier latin. J'étais avec ma mère. Mon père voyageait beaucoup, donc j'étais avec ma mère. Mais ils étaient encore en très bon terme. Après, ils ont eu un divorce un peu compliqué. Mais là, ils étaient encore en très bon terme. Donc, ils passaient très souvent rue des Fossés-Saint-Jacques. Ils m'ont apporté des cadeaux de ses voyages. Ils étaient copains. Ils sont restés très amis. Et ça, c'était pour moi, donc, très bien.
Vous abordez dans ce livre aussi cette chanson que votre père a écrite sur...
Rue des Fossés Saint-Jacques, c'est un instrument.
Qu'est-ce qu'il y voit pour vous, ce morceau-là?
Ben, c'est...
Il n'y a pas de paroles.
Ben, il n'y a pas de mots pour le dire, justement. Il n'y a pas de paroles. Ce n'est pas une chanson, c'est un instrumental. Donc, c'est sûrement une nostalgie, je pense, qu'il avait de... Il n'a pas eu envie de mettre des mots sur cette rupture qui devenait effective avec l'installation de ma mère dans cet appartement.
Georges Moustaki, rue des Fossés Saint-Jacques. Alors, dans votre biographie, Pia Moustaki, fille de Métèque, éditée chez Plon il y a quelques semaines, vous évoquez la présence de Jacques Higelin aussi auprès de Yannick, votre mère. Donc, une histoire amoureuse aussi.
Oui, bah oui.
À cette époque-là, alors?
Oui, c'est ça. Il venait à rue des Fossés Saint-Jacques, je me rappelle très bien. Jacques, et bah, il était tout à fait inconnu à l'époque et il était plus jeune. Plus jeune que ma mère, encore une fois, même plus jeune que mon père.
D'accord.
Et donc, voilà, oui, elle a eu une liaison, oui, de 2 ans. J'ai appris récemment que ça a duré 2 ans. Alors, c'était peut-être pas tout le temps, il n'habitait pas à la maison, hein, mais il se voyait très très régulièrement.
Donc, vous avez des souvenirs
de lui?
Moi,
j'aimais beaucoup, ouais.
Vous aviez des souvenirs de lui à la maison?
Oui, bien sûr, il venait à la maison, et j'ai des souvenirs de lui, et je le trouvais très beau, et il était très sympa, Il est encore plus jeune que mon père, donc c'était presque...
Presque un grand frère.
Ouais, voilà, c'était... Et je trouvais très beau.
Hmm. C'est impressionnant, ça, quand même, hein, de voir que...
Ouais.
À ces moments-là...
Et je lui ai dit à Jacques, parce qu'il est venu nous voir à Saint-Servant, Brigitte Fontaine, j'ai trouvé, mon amie Brigitte Fontaine, une location à Saint-Servant. À Reski, son mari m'avait demandé de leur trouver une location, et Jacques est venu, donc... les voir à Saint-Servant.
D'accord.
Et donc j'ai vu Jacques et je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles que t'étais... Tu te rappelles de Yannick? Alors il se rappelait plus trop, c'était très loin quand même pour lui, et puis il a connu tellement de gens et tellement de femmes, etc. Alors, je me dis, ou alors il n'osait pas trop s'en rappeler, ou je sais pas trop.
D'accord.
Mais moi je m'en rappelle bien.
Ça, c'était donc dans le début de l'adolescence.
Ouais.
À quel moment vous découvrez la Bretagne, donc de Yannick Varec, votre mère?
Ah bah, j'y allais en vacances aussi. Très souvent quand j'étais enfant.
Déjà ?
Ah oui, oui, déjà,
elle
dès
vous,
l'enfant.
Elle vous y amenait
Elle m'emmenait, elle aimait beaucoup sa Bretagne, alors elle m'emmenait, et puis on allait à Roscoff, à La Roche-Trévigné, et puis elle me laissait parfois pendant un mois chez les cousins. C'était,
c'est
elle
ça,
était
ouais.
Issue de Germain avec ses cousins-là. Et moi, qu'est-ce que j'aimais ça ? Les grandes tartines de beurre salé, c'était le rêve, c'était vraiment... Et j'ai été voir cette roche plusieurs fois depuis. Elle est toute petite, elle me paraissait immense. Et on jouait aux gendarmes voleurs dans les champs d'oignons.
D'accord.
S'amusait vraiment, c'était très joyeux. Puis ensuite, j'allais aussi... Il y a une des cousines qui s'est mariée avec Georges Garnier, Paimpolais. Et donc, elle s'est installée à Paimpol. Et ensuite, j'ai continué à aller à Paimpol, la voir et cultiver toujours cette amitié de famille. Et ma mère disait d'ailleurs... En Bretagne, tant qu'on se voit, ben on est cousins. Parce que j'ai des cousins germains que je ne vois jamais. Et j'ai des cousins plus éloignés, bretons, que je vois régulièrement, ou que j'appelle souvent, et avec qui j'ai des très beaux souvenirs. Mais j'adorais aller à Roscoff sur le port, ou sur la grève avec mes cousins. Et puis il y avait une sensation de liberté, parce que comme il y avait beaucoup il y avait des plus grands et tout ça, ils nous emmenaient. On avait le droit d'aller qu'avec des jeunes, en fait. Il n'y avait pas de parents. Ah oui, c'était joyeux.
Le temps est raccord avec ce que vous deviez vivre à cette époque. On reparlera lors d'un prochain entretien sur la Bretagne aussi, celle de l'intérieur. Est-ce que, à ces époques-là aussi, est-ce que votre maman, Yannick Varec, c'est elle qui vous avait fait découvrir la forêt de Brocéliande ?
C'est pas elle qui me l'a fait découvrir parce qu'elle est partie seule là-bas. Elle a eu envie de se faire un périple comme ça, comme une quête un peu spirituelle, je pense. Elle a pris sa petite voiture et elle s'est programmée un voyage dans la forêt de Brocéliande et dans les environs. Et j'ai retrouvé des documents et des écrits qu'elle avait écrits pendant ce voyage. Et vraiment, c'était une quête, comme ça, je crois, de ses racines, et puis d'aller voir la source de Jouvence. C'était à l'époque, je crois, où moi, j'étais plus avec mes copains. Je n'allais pas suivre ma mère, ni mon père d'ailleurs. À un moment donné, j'avais mes copains et j'avais envie de vivre ma vie aussi. Mais la forêt de Brocéliande, c'est un grand amour pour nous deux avec ma mère.
Georges Moustaki, Les eaux de Mars.
La neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pluie qui jacasse. C'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont. Un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
Merci à Pia Moustaki, notre invité du jour, pour cette entrevue. Merci à Patrick Ozouf et à Santina Calderaro pour l'organisation. On se donne rendez-vous pour ce même créneau horaire la semaine prochaine. Les empreintes musicales, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bises, bisettes, bisous. Ciao, kenavo, à bientôt.
Une pierre, un bâton, c'est Joseph et c'est Jacques. Un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, par épais, et on finit au camille. Et un reste de toc, et un poco sozinho. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu sozinho.